Vous êtes sur 106.8, Radio Grand Ciel, studio de Chartres. L'Or des Curieux, une émission écrite et présentée par Robert Giroux. À la prise de son, Simon Martin. Aujourd'hui, second volet de l'émission autour de la danse et de son rapport à la musique. Oh, musique! J'espère que chacune et chacun d'entre vous va pour le mieux, c'est en tout cas le vœu que je forme. Quoi qu'il en soit, nous passons l'heure qui vient, ensemble et en musique. Ravi de vous retrouver, et à toutes et tous, mon plus chaleureux bonjour. La danse est, de fait, une forme d'art très différenciée de la musique en ce qu'elle est en toute chose tributaire de l'instant même, de la présence physique et d'un engagement à même la peau de tous ses acteurs. S'il est un art direct, cru et sans intermédiaire, c'est bien la danse. En matière de musique, les possibilités de recul et de différenciation de la présence et de l'acte physique sont plus grandes, offrent plus de largeur. De par le recours à la musique enregistrée d'abord, et par le fait tout simple que le musicien, pour être entendu, ce qui est et demeure tout de même l'essentiel, n'a pas l'impérieux besoin d'être visible. C'est même pour le musicien, précisément, que fut inventé au théâtre ce que nous nommons la fosse d'orchestre. La fosse, le mot est assez vite macabre, par association d'idées. Lieu où l'on enfouit ses morts, les trépassés de l'art vivant, les morts pour la cause, cacher cet archer que je ne saurais voir. Beaucoup de danseurs contemporains tentent à remettre le musicien, sinon au centre du jeu, du moins dans le champ du visible, à vouloir refaire alliance avec lui pour mener en sa compagnie une expédition de nouveau commune. Déclaration de principe, choix purement visuel souvent, et favorisant un certain type d'interprétation de la musique. La musique, faut-il le redire, est avant toute chose art de l'intériorité. Le visible n'est pas sa seule condition, pas son seul champ d'action. De plus, la musique vit tout autant, et sinon plus et mieux, par l'enregistrement que par l'exécution directe, physique. J'avoue ne pas partager cet engouement, cette mode du soi-disant direct, d'une musique qui serait, par Dieu sait quelle grâce, devenue franche, sincère, réelle, par le seul fait qu'elle serait jouée à l'instant devant vous. En musique, il n'est rien qui ne se ressente, qui se déchiffre et se comprenne immédiatement. Il y faut le temps, le recul, et pardon d'être aussi outrageusement démodé, une certaine qualité de recueillement que ne permet pas l'exécution publique, l'absence de solitude. Quant au concept d'art vivant, de spectacle vivant, il ne me semble jamais être un garant de Dieu sait quoi de réel, de non frelaté, de direct, de vivant en fait. La vie est la condition première de toute chose, artistique ou pas. La vie n'est jamais prise en défaut, jamais captive, jamais la dupe de quoi que ce soit que nous pourrions créer. Aller dans un musée, une galerie, la vie est dans toute la peinture. Écoutez un CD chez vous, la musique est là, bien présente, et la vie y est toute sa condition. Ce sacro-saint concept du live est, pardon de le dire peut-être, tout simplement de l'enfumage. Et concernant le monde de la rock music ou de la pop qui en sont à l'origine, qu'il me soit permis de douter de la blanche pureté des choses. S'il est un spectacle qui ne peut faire autrement qu'être direct, instantané et physique, c'est bien le spectacle de danse. Tout y tient, à la colonne, aux épaules, aux bras, aux jambes, aux muscles, au plein fonctionnement et à l'engagement total des corps et des esprits des exécutants de la danse. Et j'ajouterai aussi que la danse contemporaine atteint souvent une forme d'absolu quant aux gestes. Elle est incroyablement demandeuse, exigeante et sans pitié pour le corps des danseurs. On s'y entrechoque, on s'y collisionne, on y chute, on y glisse, de façon très spectaculaire souvent. On imagine assez un chorégraphe contemporain face à un chorégraphe classique et lui disant « Vous n'avez pas, monsieur, le monopole de la torture ». Alors reprenons le chemin de la salle de danse, là où nous l'avions laissé il y a 15 jours, dans la dernière partie du XXe siècle, juste avant que ne se lève le rideau sur le XXIe. Et où sommes-nous ? États-Unis d'Amérique, les grandes métropoles, là où ont convergé les savoirs de la vieille Russie, de l'Afrique et de l'Europe, dans ce creuset américain où chacun voulut jouer sa partie, son rôle, sa destinée. Creuser où s'engouffrent toutes les cultures, les traditions et les talents du monde pour ressortir en un geyser composite où ne se reconnaît plus ni Afrique, ni Asie, ni Europe, mais un courant unique, à la force, à l'intensité décuplée. Et le XXe siècle sera avant tout sensible à la puissance, aux démonstrations de force, à l'allant, à la projection, fusée, auto, prototype de tous ordres, censé s'expédier par propulsion à la rencontre d'autres univers. Et toutes les formes de l'art du XXe siècle suivront cette course à la conquête des mondes. Il y a ce mot, cette invective qui annonce le début de l'action sur un plateau de cinéma et qui résume à lui seul tout le XXe siècle. Moteur. Il y a donc accolé à la danse l'idée de progrès et de projection vers le futur, vers l'inconnu, par le pas, par le saut, par la figure. Le dernier quart du siècle nous trouve aux États-Unis d'Amérique. Jerome Robbins, Alvin Ailey, Trisha Brown, Carol Armitage. Ces noms pris au hasard, ou presque, dans le livre de la danse américaine, ont laissé des empreintes de pas, balafrant le plancher d'un unique théâtre où vont et passent des figures, des carcasses, des papillons, des anges cabossés, des apparitions, des spectres, des courbes, des lignes brisées, des gribouillis, des hiéroglyphes, la perfection et son petit train fantôme. Jerome Robbins, Alvin Ailey, Trisha Brown, Carol Armitage. Bien tasser, bien mélanger, puis fermer l'opercule, et bien secouer, et coller son oreille tout contre pour écouter. Écouter quelle musique s'y joue. Philip Glass, par exemple. Philip Glass qu'il faut écouter dans son entier. Philip Glass pour qui il faut tenir à distance cette espèce de mode qui voudrait faire de lui le répétiteur acharné d'une seule phrase, d'une seule structure, d'une seule couleur, d'une seule note presque, comme un diable fait prisonnier de son miroir, alors qu'il est un musicien sensible, infiniment riche de timbres, si chamarré et si ingénieux. Il a, tout comme Maurice Ravel bien avant lui, l'amour des timbres et des accointances sonores inattendues. Alors tentez de vous laisser surprendre, de vous laisser prendre à ces « glass pieces », littéralement ces débris de verre, sur lesquels danseront pour vous les danseurs de la Jerome Robbins Company. Puis ce sera Duke Ellington pour Alvin Ailey, Georgie Ligeti pour Carol Armitage, et enfin John Cage pour Trisha Brown. Thank you.
Thank you.
Une scène large, profonde, où tombent depuis les cintres ce qui ressemblerait à des fils de pluie, d'une pluie rose orangée, d'une pluie fine, statique, figée, mais devenant miroitante et changeante selon les mouvements et la lumière. Rain, ballet enivrant, euphorisant de la chorégraphe Anne-Thérèse de Kersmaeker, véritable chorégraphe musicienne, veillant autant aux plus infimes détails de sa chorégraphie qu'à la profonde correspondance, à l'adéquation ou à l'entrechoc idéal de celle-ci avec la musique. Lorsque l'on voit travailler Anne-Thérèse de Kersmaeker, on réalise alors à quel point cette artiste est immergée dans la musique, à quel point elle est soucieuse de lui laisser sa place tout entière, de n'en pas faire une simple utilité du ballet. Anne-Thérèse de Kersmaeker, il faut s'en rappeler, fut d'abord musicienne, flûtiste. Et pour cette œuvre particulière, Anne-Thérèse de Kersmaeker a choisi de confronter sa troupe à la musique de Steve Reich, musique pour 18 musiciens, qui sert d'argument et de fil conducteur au ballet. Rain, de plus, ne sera pas la seule incursion de la chorégraphe dans l'œuvre de Reich. Le fondement de cette musique, comme vous l'entendrez, est sans le moindre doute le mouvement, mouvement apparent ou non, rapide ou non, collectif ou non. Elle est aussi d'évidente façon la musique d'un percussionniste, mais il y a en elle une telle richesse timbrale et une telle force d'évocation du principe de mouvement que s'en devient un appel à la danse, à l'ivresse du geste, à l'urgence ressentie de bouger, de s'élancer, de bondir. Elle a donc un versant et un effet physique, immédiat et fort. Et par cette chorégraphie, Anne-Thérèse de Kersmaeker met en lumière la nature éminemment visuelle de cette musique, avant tout faite de miroitements, de correspondances, de variations dans la couleur sonore, de déplacements à peine perceptibles d'éléments d'identification. Nous avons le sentiment de la répétition, là où en fait il y a métamorphose progressive, lente mais constante de l'objet par le mouvement ou la nature de la lumière qui est projetée. Tout bouge, tout change, se modifie par l'intensité, par des variations de mat à brillant et de brillant à mat sur la plaque sensible. Tout est de fait en bouleversement constant. Et par Dieu sait quel détour de l'esprit, nous interprétons cela comme une fixité et nous appelons cette musique de la musique répétitive, nous arrêtant par là à ce qu'il nous en semble, plus qu'à la réalité. J'aimerais à présent éclairer quelque peu ce que je viens de vous dire là, en commettant devant vous rien moins qu'une sorte de sacrilège. En effet, ce musique pour 18 musiciens s'écoute intégralement, d'une traite et sans interruption. C'est une musique à laquelle il faut savoir s'abandonner. Mais le temps me manque et j'ai donc choisi de ne vous faire écouter qu'un seul mouvement, une seule section de cette musique. J'ai choisi pour vous la section 3A qui me semble renfermer en elle toutes les immenses qualités de cette œuvre, l'inattendu de ses timbres et de leur complémentarité naturelle, une rythmicité légère, souple, sur laquelle évoluent, vont et viennent ou se posent des mélodies esquissées, des accords tenus ou brefs. Sous un certain rapport, on pourrait considérer cette musique comme une descendance lointaine de l'illustre boléro de Maurice Ravel, une charnière rythmique constante sur laquelle viennent se greffer des éléments mélodiques, des volumes, des durées, des souffles, des scansions, le tout semblant pris d'une sorte de vertige ascensionnel. Même principe et même trajectoire pour les deux œuvres. Entendons-nous bien, il y a là deux œuvres bien distinctes, mais procédant toutes deux d'une certaine obsession rythmique, et ce jusqu'à l'envoûtement, et aussi une ascension irrémédiable, une exaltation de la pulsion jusqu'à l'épuisement total. Encore une fois, je me permets de vous recommander l'écoute de ce musique pour 18 musiciens de Steve Reich. Excuse faite au compositeur de ne pouvoir vous le faire écouter intégralement. Nous écoutons musique pour 18 musiciens, section 3A, par Steve Reich et ses musiciens.
Thank you.
La danse, c'est une profusion de compagnies à travers le vaste monde, avec des angles de vue différents, des aspirations différentes, des moyens et des esthétiques différentes. Depuis les créatures chamarrées et semblant sortir d'un roman de science-fiction du Side Rebel Dance Company de New York jusqu'à la magnificence sans âge du Cloud Gate Dance Théâtre de Taïwan, mille et mille façons de faire se mouvoir les créatures, mille et mille façons de raconter une seule et même histoire, mais autant de façons qu'il y a d'individus de ressentir la musique, de la vivre et de se mouvoir par elle. La bande-son de la danse d'aujourd'hui n'est plus invariablement classique. Je dis cela au sens possiblement restrictif du terme, parce que la danse a su diversifier son public et au passage se diversifier elle-même. Les chorégraphes semblent moins qu'auparavant construits d'une seule pièce. Tel chorégraphe choquera un jour, et puis l'année suivante, il émerveillera par la fraîcheur de sa lecture du répertoire classique. Peut-être les chorégraphes sont-ils devenus comme les romanciers ou les auteurs de théâtre, des raconteurs d'histoire. Et le fait de n'être plus inféodé, confiné au seul répertoire classique, participe beaucoup, je crois, de leur renouveau. Les êtres sont multiples et changeants. Ils ont des constantes, oui, mais aussi des entre-deux, des contre-jours, des recoins d'ombre, des passages secrets. Et lorsque les arts deviennent trop formalistes, trop rigidement codés, l'expression de l'humain y devient contrite et prise à l'étroit, et plus rien ni personne ne respire. Ici, le passage en force de la danse, par un certain esprit de provocation parfois, par cette façon qu'elle a d'éprouver les sensibilités et les susceptibilités des uns et des autres, se trouve pleinement justifié. Nous avons tous besoin d'être éprouvés dans nos facultés à tolérer, à accepter, à comprendre, à faire preuve de réflexion, d'esprit, de discernement et d'un tant soit peu de conscience personnelle. Tout ce qui peut aiguiser notre esprit, le rendre plus vif, plus réactif, plus éveillé, plus rapide, tout cela nous est précieux. L'éveil, c'est un domaine dans lequel la danse est très opérante et très efficiente, car sous des dehors parfois très codés, très contenus, très chorégraphiés en fait, la danse est et demeure un art premier, une expression à vif de tout ce que nous sommes. Écoutons maintenant quelques-unes des musiques que choisirent Angelin Preljocage, Maggie Marin et enfin Philippe Découfflet. Pour Angelin Preljocage, ce sera le Dem Trio dans Hüseyin Taksim, un solo de oud turc. Pour Maggie Marin, le second concerto brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach. Et pour Philippe Découfflet, j'ai choisi pour nous quitter d'évoquer l'un de ses nombreux tours de génie, la courte et sublime chorégraphie qu'il avait réalisée pour le Petit Bal Perdu, cette merveilleuse chanson du génialissime Bourvil. Nous reparlerons de danse la saison prochaine. Le sujet est à peu de choses près inépuisable. Que toutes celles et ceux qui dansent et écouteront cette émission soient assurés d'en être toutes et tous les dédicataires. Nous nous retrouverons dans 15 jours pour toute autre chose alors. D'ici là, prenez tous grand soin de vous-même. À très bientôt. Au revoir.
Thank you. C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert, sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient, dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière d'être toujours, toujours heureux. Parmi les gravats, ils souriaient dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Et puis quand l'accordéoniste s'est arrêté, ils sont partis. Le soir tombait dessus la piste, sur les gravats et sur ma vie. Il était redevenu tout triste, ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant de lumière avec eux dans la rue. Alors la belle affaire, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien.